Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Google, premier géant d'Internet épinglé dans l'Union européenne, le groupe américain écope d'une amende record de 50 millions d'euros infligée par l'autorité française chargée de la protection des données privées. En cause, l'information insuffisante sur l'exploitation des données personnelles des utilisateurs.
Sans ambition pour certains, entérinant un abandon de souveraineté par la France selon d'autres, le nouveau traité franco-allemand signé mardi par Angela Merkel et Emmanuel Macron est censé élever la relation bilatérale à un niveau supérieur.
À 4 mois donc des élections européennes, alors que Theresa May n'a pas réussi hier à convaincre les députés britanniques sur les suites à donner à son plan pour le Brexit. La mort d'un grand monsieur de l'accordéon, Marcel Azzola, est mort hier à l'âge de 91 ans. À la fin de ce journal, nous reviendrons sur toute sa carrière.
Et dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, acte 10 des Gilets jaunes. Pourquoi la mobilisation a-t-elle été aussi forte à Toulouse? Eh bien, on appellera Lionel Laparade, il est rédacteur en chef adjoint à la Dépêche du Midi.
50 millions d'euros, c'est le montant donc de l'amende record infligée à Google par la CNIL. Le gendarme français de la vie privée a estimé que le géant américain n'informait pas assez clairement ses utilisateurs sur l'exploitation de leurs données personnelles. C'est la première amende visant l'un des membres des GAFAM depuis l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données personnelles en mai dernier, le fameux RGPD. Mathias Moulin, directeur de la protection des droits et des sanctions à la CNIL, a relevé donc plusieurs manquements de Google aux droits européen.
On a analysé les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité et on a trouvé 3 manquements, essentiellement un manque de transparence comme vous le soulignez, c'est-à-dire que les informations essentielles pour comprendre l'impact sur la vie privée sont disséminées dans différents documents. Il faut parfois jusqu'à 5 ou 6 clics pour accéder à l'information. Ensuite, une question de compréhension, parce que les termes qui sont utilisés sont parfois génériques, vagues, pour comprendre justement les finalités et les conséquences du traitement. Un problème d'information aussi sur les durées de conservation qui, pour certaines catégories, ne sont pas précisément indiquées. Et enfin, un problème de recueil du consentement, parce que les choix sont faits par défaut, c'est-à-dire que pour la personnalisation de la publicité, les cases sont précochées. Et de la même manière, on vous explique pas suffisamment de manière compréhensible les conséquences de cette personnalisation.
Cette amende contre Google fait suite à des plaintes collectives regroupant 10 000 personnes, des plaintes portées notamment par l'association La Quadrature du Net qui applaudit aujourd'hui la sanction financière. Mais Arthur Massot, juriste à La Quadrature du Net, estime que ce n'est pas assez.
Aujourd'hui, l'amende est de 50 millions d'euros, ce qui est assez faible en fait comparé d'abord aux revenus de Google qui sont de 100 milliards, et aussi assez faible comparé à la sanction maximum qu'aurait pu prononcer la CNIL qui serait de 4 milliards. Cette décision a un périmètre assez limité parce qu'il ne concerne que l'utilisation de Android, qui est le système d'exploitation de Google sur téléphone. Alors que nous, nos plaintes concernaient Gmail, YouTube et le moteur de recherche de Google. Donc nos plaintes qu'on a portées avec 10 000 personnes contre Google doivent avoir une réponse complète de la part de la CNIL, et une réponse qui cette fois-ci abordera tous les sujets et surtout prévoira un montant proportionné à l'entreprise et aux violations.
Mais ça vous semble tout de même un coup de semonce bienvenu, ça peut faire date?
Ce qu'on espère, c'est que la CNIL fasse une série de décisions qui feront date. Si la CNIL s'arrêtait à cette décision d'aujourd'hui, ça serait très décevant. Et évidemment, on s'attend à ce que Google fasse appel, donc d'abord appel devant les juridictions françaises, le Conseil d'État, et ensuite mette en œuvre les dispositifs de coopération au niveau européen. Et en fait, on peut s'attendre à une procédure qui prendra plusieurs années. Mais ça, c'est pas grave, on y était préparé. Tous ces débats-là, en fait, sont très symboliques, c'est important que le public prenne conscience que Google viole ses droits, viole nos libertés et se fait autant d'argent de façon illicite. La bataille symbolique, pour l'instant, on la gagne, c'est la plus importante. Et au final, la bataille judiciaire, c'est pas grave, on a le temps et on est assez confiant de gagner à la fin.
Arthur Massot, juriste à La Quadrature du Net, il répondait à Éric Chavroux. La procédure sera plus rapide. Le coup d'envoi aujourd'hui des inscriptions sur Parcoursup pour accéder à l'enseignement supérieur. Les élèves de terminale et les étudiants qui souhaitent se réorienter l'an prochain ont jusqu'au 14 mars pour entrer leurs vœux dans la plateforme en ligne. Les lycéens seront fixés sur leur admission dès juillet et non plus début septembre, ce qui évitera à certains de stresser pendant l'été. 14 000 formations sont disponibles parmi celles qui intègrent Parcoursup, les instituts de formation en soins infirmiers, les instituts du travail social ou encore des écoles de commerce. François de Rugy a tranché, les déchets industriels toxiques enfouis dans les entrailles de Stocamine dans le Haut-Rhin ne seront pas extraits compte tenu des enjeux de la balance des risques et du surcoût lié au déstockage, explique le ministre de la Transition écologique. Colère des députés alsaciens, y compris LREM qui préconisait dans dans un rapport, d'évacuer plus de 40 000 tonnes de déchets dangereux non radioactifs, enfouis donc à plus de 500 mètres sous terre, dans l'ancienne mine de potasse Stocamine, près de Mulhouse. On y revient dans le journal de 7h30.
7h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Son plan B ressemble à s'y méprendre, à son plan A.
Theresa May a annoncé hier aux députés qu'elle chercherait à reparler avec l'Union européenne du filet de sécurité à propos du Brexit. Filet de sécurité censé éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. L'opposition travailliste, tout comme la presse britannique, ironise ce matin sur cette énième tentative de Theresa May de sauver son accord sur le Brexit. Elle a promis un changement de méthode, un gouvernement plus ouvert, plus inclusif dans la manière d'associer le Parlement, mais pas question d'organiser un deuxième référendum sur le Brexit, ni de repousser la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, toujours fixée au 29 mars. Theresa May maintient également sur la table un Brexit sans accord, scénario que l'opposition lui demande pourtant d'abandonner. À 4 mois des élections européennes, eux veulent renforcer leurs relations. Emmanuel Macron et Angela Merkel signent aujourd'hui à Aix-la-Chapelle un nouveau traité franco-allemand, 56 ans après celui de l'Elysée. Objectif, mieux coordonner les politiques de défense et de diplomatie, ainsi que la gouvernance économique, faciliter encore la vie administrative des frontaliers. Mais pour Michaela Wiegel, journaliste au Frankfurter Allgemeine Zeitung, ce traité ne fait pas vraiment progresser la relation franco-allemande autant qu'Emmanuel Macron pouvait l'espérer.
Ce traité arrive un peu trop tôt. Ça partait d'un élan d'Emmanuel Macron juste après son élection. Ses attentes n'ont certainement pas été remplies sur le domaine de la défense, notamment par exemple sur les règles à l'exportation, si on veut vraiment faire émerger une industrie de défense commune.
Que dit ce traité d'Aix-la-Chapelle de la relation franco-allemande aujourd'hui ?
Il montre une forte volonté de renforcer la relation. Ça peut aussi nous protéger, nos deux pays, des tentatives de délitement dans les décennies à venir. Et c'est aussi une reconnaissance pour le rôle que joue la société civile. C'est très important de l'affirmer aussi dans un traité.
Sur le plan politique, est-ce que c'est aussi une façon pour Emmanuel Macron, comme pour Angela Merkel, de montrer qu'ils sont actifs en Europe et peut-être de s'extraire de leur situation politique respective?
Pour Angela Merkel, c'est aussi un testament, on peut dire. Elle sait que c'est son dernier mandat. Pour Emmanuel Macron, j'imagine que son ambition était d'aller plus loin.
Michaela Wiegel, journaliste au Frankfurter Allgemeine Zeitung, elle répondait à Bertrand Galichet. Retour à présent sur l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat. L'ancien collaborateur de l'Élysée a été entendu une deuxième fois hier par une commission d'enquête, notamment sur ses voyages à l'étranger et ses passeports diplomatiques. Antoine Maret.
À de multiples reprises, pendant ces 2 heures d'audition, Alexandre Benalla refuse de s'exprimer. Il a été mis en examen une nouvelle fois vendredi. Il se cache derrière l'instruction judiciaire. Un argument balayé d'un revers de main par le président de la commission, Philippe Bas.
Notre travail, c'est de vérifier au nom des Françaises et des Français le bon fonctionnement de l'État. Seul le Parlement peut faire cela et il ne peut pas faire le travail de la justice, mais la justice ne peut pas faire ce travail de contrôle parlementaire du fonctionnement de l'État. Et par conséquent, les questions que nous posons sont toutes des questions qui ont trait à des décisions administratives, à des décisions de services publics, à des décisions de la présidence de la République.
Alexandre Benalla esquive la plupart des questions sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques. Il n'est pas plus loquace sur ses voyages en Afrique depuis son licenciement et il ne veut pas non plus expliquer aux sénateurs la nature de ses activités depuis 6 mois, au point d'agacer franchement le co-rapporteur Jean-Pierre Sueur.
Tout agent public doit saisir, s'il s'agit d'une haute fonction, la commission de déontologie pour demander s'il n'y a pas contradiction entre l'activité qu'elle se propose de faire et celle qu'elle a faite avant. Or, M. Benalla ignore complètement cela et il ne veut pas nous dire ce qu'il a fait pour être payé pendant 1 mois par une société qui a été créée pour les besoins de la cause et ce qu'il fait actuellement, qui l'emploie, pourquoi et pour quelles activités.
Face au mutisme d'Alexandre Benalla, Philippe Bas se fait même menaçant en rappelant « La personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ».
Le président du Zimbabwe a dû écourter sa tournée internationale en raison de manifestations anti-gouvernementales brutalement réprimées. Au moins 12 personnes ont été tuées au Zimbabwe et 78 blessées par balle la semaine dernière lors de manifestations contre la forte hausse du prix des carburants. Dans un pays où la pauvreté est endémique, le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe a par ailleurs recensé plus de 240 cas d'agression et de torture. En République démocratique du Congo, la prestation de serment du nouveau président Félix Tshisekedi, initialement prévu aujourd'hui, pourrait être repoussé à jeudi, le temps de recevoir les représentants des chancelleries et des États africains. L'opposant Martin Fayoulou, qui conteste toujours les résultats de la présidentielle, à toutes les peines du monde, a mobilisé ses partisans.
T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris.
Lui et son accordéon avaient accompagné Jacques Brel sur la chanson Vesoul dans un enregistrement survolté en 68 où l'on entendait le fameux Chauffe Marcel Chauffe. Marcel Azzola est mort à l'âge de 91 ans. Son cœur a lâché, annonce sa campagne de scène et de chœur, la pianiste et violoniste Lina Bossati. Marcel Azzola, fils d'immigrés italiens installés à Pantin près de Paris, avait commencé à jouer dès l'âge de 11 ans.
Ça fait enfant martyr aujourd'hui, mais à l'époque ça se faisait. J'ai commencé dans les guinguettes, et puis dans les guinguettes ça a été l'enchaînement avec les balmusettes, les brasseries, les cabarets, les dansings, des musiques différentes dans chaque discipline.
Marcel Azzola, interrogé dans Télématin, c'était en 2017. Il avait vu sa carrière décoller en accompagnant Fréhel au Débotté lors d'un radio-crochet en 1937. Sa culture classique et son talent ont fait le reste. Accordéoniste très demandé en studio, il avait enregistré en 49 sous le ciel de Paris avec Édith Piaf. Vers ensuite Beko, Barbara, Boris Vian, Mouloudji, Juliette Gréco, entre autres. L'accordéon de Marcel Azzola accompagne aussi Monsieur Hulot sur son Solex dans Mon oncle de Jacques Tati. Marcel Azzola, un virtuose qui a permis le rapprochement de la musette et du jazz. En 2006, il jouait la javanaise avec le regretté Didier Lockwood au violon. En plus du musicien formidable, l'homme ne l'était pas moins. Salut aujourd'hui le guitariste de jazz Christian Escoudier. L'accordéoniste Marcel Azzola est mort, je le rappelle, à l'âge de 91 ans. Le temps de ce mardi 22 janvier, marqué par une vigilance orange pour neige sur 24 départements allant du nord au centre de la France. Attention également aux pluies verglaçantes, un temps plus calme dans les Alpes et près de la Méditerranée, de la pluie dans le sud-ouest. Les températures sont comprises ce matin entre moins 6 et moins 2 degrés sur une grande partie est du pays, moins 2 à 3 degrés dans la moitié ouest, jusqu'à 6 près de la Grande Bleue, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu, 7h13 sur France Culture. Dans quelques instants, on va à Toulouse pour tenter de comprendre pourquoi la mobilisation durant l'acte 10 des Gilets jaunes a été aussi fort dans la ville rose.